8h, le journal Alexis Morel. Bonjour Alexis.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Déterminé à commettre le pire, l'enquête sur la tuerie d'Uvalde aux États-Unis révèle que le tireur avait annoncé sur Facebook son passage à l'acte imminent. Démocrates et républicains s'écharpent sur le contrôle des armes à feu juste avant le congrès de la NRA où Donald Trump doit prendre la parole pour un nouveau duel à distance avec Biden. Nous serons sur place. Des armes aussi, mais cette fois des armes lourdes que réclame l'Ukraine pour tenter de résister aux assauts russes dans le Donbass. Zelensky met la pression sur les Occidentaux, le président ukrainien, porté par l'immense popularité dont il bénéficie toujours dans son pays, vous l'entendrez. Une pêche durable est-elle vraiment possible? Les pêcheurs de thon rouge en Méditerranée aimeraient donner l'exemple alors que la saison s'ouvre ce matin. Direction le Gros du Roi dans ce journal. Et on va y rester d'ailleurs en Méditerranée, Jérôme, avec vos invités à 8h20.
Oui, trois invités ce matin. Henri Kosker, Gabriel Béra et Sophie Becherel pour un grand entretien consacré à la grotte Kosker, cette grotte sous-marine préhistorique unique au monde, reconstituée dès la semaine prochaine à Marseille. Auditeurs d'Inter, j'attends vos appels dès maintenant au 01 45 24 7000.
Dans ce journal aussi, le geste exemplaire d'une pharmacienne alsacienne pour aider une femme en danger. Et puis nous serons à Cannes pour un coup de cœur de notre service culture, le dernier film de Claire Denis dans la jungle du Nicaragua.
France Inter.
Un rio trae gozo a la ciudad de nuestro Dios.
Un millier d'habitants d'Uvalde réunis cette nuit pour une veillée en espagnol et en anglais dans cette petite ville texane. Uvalde où le temps s'est arrêté mardi soir quand Salvador Ramos, 18 ans, a tué 19 élèves et 2 enseignantes d'une école primaire. Depuis, les visages des victimes défilent sur les télés américaines. Améry qui venait de fêter son 10e anniversaire. Rosé qui avait reçu un prix pour ses bonnes notes. Ou encore Eva, l'éblouissante professeure de 44 ans. Bonjour Sébastien Paour.
Bonjour.
Envoyé spécial d'Inter à Uvalde. Sébastien, l'enquête avance. On en sait un peu plus ce matin sur l'enchaînement des faits mardi soir.
Oui, les différentes déclarations à la fois des forces de l'ordre et des élus de l'État permettent de retracer de plus en plus précisément le parcours de Salvador Ramos. D'abord, l'achat de 2 fusils d'assaut AR-15 dans une armurerie de la ville. Le premier, le lendemain de ses 18 ans, le 16 mai. Le second, 3 jours après, ainsi que des centaines de cartouches, le tout légalement. Ensuite, lundi matin, il tire sur sa grand-mère, chez qui il vit depuis 2 mois et avec laquelle il se serait disputé, d'après les médias américains. Elle est blessée à la tête, mais alerte la police alors qu'il prend son pick-up et qu'il quitte la maison. Le jeune homme de 18 ans n'a pas d'antécédent avec la police. Il porte une veste tactique, mais pas de gilet pare-balles. Il poste un message sur Facebook vers 11h pour annoncer qu'il va s'attaquer à une école primaire. Près de l'école Rob, il a un accident et entre dans l'établissement avec l'un de ses fusils semi-automatiques. Le policier qui assure la sécurité ne parvient pas à l'arrêter. Le tireur entre dans une classe de CM1 au bout d'un couloir, il verrouille la porte et il ouvre le feu. On connaît la suite, le bilan. Les policiers arrivés en renfort font sortir des élèves par les fenêtres. C'est un tireur d'élite de la police aux frontières. On est à quelques kilomètres du Mexique ici, qui finit par abattre le tueur.
Voilà pour l'enquête, mais Sébastien, le débat sur le contrôle des armes à feu ne retombe pas et il devrait même se poursuivre ce week-end.
Oui, le président américain s'en est pris dès lundi soir à son retour du Japon au puissant lobby des armes, la NRA, l'association nationale qui protège le droit de porter une arme en Amérique. C'est dans le 2e amendement de la Constitution. Il a dit qu'il fallait se dresser contre elle. Elle tient, ça tombe bien, son assemblée annuelle tout le week-end à Houston, au Texas, à 4 heures de route d'Uvalde. L'ancien président Donald Trump doit y prendre une nouvelle fois la parole. Ce sera demain après-midi. Les très conservateurs sénateurs et gouverneurs du Texas, Ted Cruz et Greg Abbott, également. Quant à Joe Biden, il doit venir ici à Uvalde dans les prochains jours. La Maison-Blanche devrait nous en dire plus assez rapidement.
Sébastien Paour au Texas. Merci Sébastien. Et illustration de cette Amérique divisée sur la question, la conférence de presse du gouverneur républicain du Texas en pleine allocution hier soir. Son opposant démocrate l'a vivement interpellé. Ce drame était prévisible car vous avez décidé de ne rien faire. Pour autant, malgré l'émotion du moment, les appels à réguler la circulation des armes à feu seront probablement 20, selon Jean-Éric Brana, spécialiste des États-Unis à l'Université Paris 2.
80% des Américains ne souhaitent pas qu'il y ait une loi pour interdire le port d'armes. 52% sont en faveur d'un durcissement de législation sur le plan local. mais ça passe assez rapidement. Au bout de 10-15 jours, ce phénomène a déjà baissé. Donc c'est plutôt le statu quo que demandent les Américains. Ils demandent aux hommes politiques de ne pas s'occuper de cette question de façon générale. En réalité, dans la mythologie américaine, bien sûr, il y a cette charpente des libertés, mais il y a tout un ensemble de choses qui est la conquête de l'Ouest. Et dans cette conquête de l'Ouest, il y a les armes, puisqu'il n'y avait pas de police pour se protéger, que ce soit des Indiens, des animaux, des gangsters. C'est resté ancré dans la conscience américaine, et c'est vrai que les armes représentent aussi ce passé que les Américains continuent à vénérer aujourd'hui.
À l'universitaire Jean-Éric Brana avec Julie Pietri.
En Ukraine, Severodonetsk, cible principale de l'armée russe dans les prochaines heures.
Une ville stratégique et dernière poche de résistance dans la région de Lugansk. Les combats se rapprochent, le centre-ville est désormais à portée de mortiers russes. Face à la puissance de feu de Moscou dans le Donbass, Kiev réclame davantage d'armes lourdes aux Occidentaux, notamment des lanceurs de roquettes, car Volodymyr Zelensky le reconnaît, l'ennemi est nettement supérieur en termes d'équipement et de soldats. Le président ukrainien toujours au top de sa popularité sur la scène nationale, même l'opposition semble séduite. Nathanaël Charbonnier, vous l'avez constaté dans la capitale.
Zelensky, l'intouchable. En l'espace de 3 mois, celui que l'on présentait comme un clown est devenu le héros d'un pays tout entier. Kirill avait voté pour lui en 2019 et aujourd'hui plus que jamais, il est fier de son président.
Il n'y a jamais eu un président comme cela et il n'y en aura pas d'autre.
Le président Zelensky, homme de télévision qui faisait rire, ce temps-là semble très loin aussi pour Vladimir, qui estime qu'on ne peut plus se moquer de celui qui unit la nation comme jamais.
Ce n'est pas le moment de le critiquer. Il fait tout son possible et tout le monde commet des erreurs, même lui. Et maintenant, Zelensky se comporte vraiment comme doit le faire un président responsable.
Zelensky, intouchable. L'opposition l'a bien compris, le député Rostislav Pavlenko est un soutien de l'ancien président, mais quand on lui parle de Zelensky, la réponse est nette et ne laisse aucune place à la critique, pas en ce moment en tout cas.
La chose à savoir, c'est que nous devons unir nos efforts pour gagner, afin de combattre l'ennemi. Et cette union est importante, dans le pays, mais aussi sur la scène internationale. C'est comme ça qu'on sera efficace et nous attendons que le monde fasse de même.
Et tout le monde s'y plie, car même ceux qui avaient voté contre Zelensky il y a 2 ans à la présidentielle sont maintenant sous le charme. À Kiev, Marc Garvenès, Nathanaël Charbonnier, France Inter.
Cette offensive russe en Ukraine a convaincu la Suède et la Finlande de demander leur adhésion à l'OTAN, mais c'est loin d'être fait, car la Turquie, membre de l'Alliance, menace toujours de mettre son veto. Le président Erdogan accuse les pays nordiques d'abriter des militants kurdes du PKK. Emmanuel Macron va tenter de le faire changer d'avis. Le chef de l'État doit s'entretenir au téléphone ce matin avec son homologue turc. 219 cas de la variole du singe sont désormais recensés dans les pays où elle n'est pas présente d'habitude, dont 7 en France. Le Centre européen de contrôle des maladies précise que la plupart des cas sont des hommes jeunes déclarant avoir des relations sexuelles avec d'autres hommes.
France Inter 8h08, Alexis Morel, 2 semaines de campagne seulement nous séparent des élections législatives.
Oui, d'autant qu'elle est un peu entre parenthèses cette campagne avec ce pont de l'Ascension à l'image d'Emmanuel Macron qui quitte Paris pour passer quelques jours au fort de Brégançon. Mais l'opposition ne compte pas ralentir le rythme. Au Rassemblement National, on a un objectif en tête, obtenir au minimum 15 élus le mois prochain pour constituer un groupe à l'Assemblée. Ce n'est arrivé qu'une fois dans l'histoire du parti. Entre 86 et 88, à la faveur de la proportionnelle instaurée à l'époque par François Mitterrand, le FN comptait alors 35 députés, avec Jean-Marie Le Pen comme chef de file, Élodie Forêt.
De sa terrasse ensoleillée, c'est toujours avec une pointe de fierté que Jean-Marie Le Pen se souvient de 1986.
Il y avoir 2 conseillers d'État, un doyen de faculté.
35 députés, quelques profils société civile, de nombreux grognards du FN surtout, dont l'ancien para Roger Olyndre ou le résistant Pierre Sergent passé par l'OAS. 35 députés et une volonté farouche de faire parler de soi.
Nous avons utilisé à fond la procédure parlementaire pour essayer de faire parler de nous et de défendre nos idées.
Rappel au règlement à outrance, débat rugueux, altercation, Jean-Marie Le Pen assume tout était bon pour être audible, jusqu'à pousser la chansonnette à la tribune lors d'un débat budgétaire.
Il trahit roi, Chirac et sa reine, c'était pas la peine, c'était pas la peine, c'était pas la peine assurément de changer de gouvernement.
Je crois que c'est la première fois qu'on chantait à la tribune de l'Assemblée nationale. Il est nécessaire si j'ose dire, d'être immodeste.
Limite de l'exercice en 2 ans, aucune des propositions de loi du FN, du rétablissement de la peine de mort à la préférence nationale, n'est examinée, encore moins adoptée. En 1988, dissolution de l'Assemblée, l'aventure s'achève. Sans proportionnel, seule une députée FN sera...
Élodie Forêt. Après la polémique politique, l'autorisation du burkini dans les piscines de Grenoble devient un feuilleton judiciaire. Le tribunal administratif suspend l'autorisation votée la semaine dernière par le conseil municipal. Pour la justice, il s'agit d'une grave atteinte à la neutralité du service public. Mais le maire écologiste de Grenoble compte faire appel. L'affaire sera donc portée devant le conseil d'État. On en vient à cette histoire qui se termine bien en Alsace, grâce à la vigilance d'une équipe de pharmaciens. Une femme en danger s'est présentée dans leur office à Ilkirch-Grafferstaden, près de Strasbourg. Et ils ont pu discrètement la secourir grâce à un petit mot, Émilie Pou.
Lorsque cette femme de 36 ans, enceinte, se présente au comptoir avec son ordonnance accompagnée d'un homme, elle a le doigt placé sous un mot et elle regarde avec insistance la pharmacienne. Il s'agit d'un SOS, trois petites lettres qui font comprendre à l'équipe que cette cliente est sans doute en danger. Très vite, la décision est donc prise d'appeler la police et de gagner du temps. L'écriture sur l'ordonnance est indéchiffrable. Il faut appeler l'hôpital, il y a un doute sur un des médicaments. L'équipe de la pharmacie trouve toutes les excuses possibles. Et finalement, la pharmacienne fait passer la jeune femme de l'autre côté du comptoir le temps que les policiers arrivent, 5 à 10 minutes plus tard. L'homme est emmené. La femme, elle, raconte alors son histoire. Les menaces de mort dans un contexte de séparation et de mariage de complaisance. Elle avoue également que jusqu'ici, elle n'avait jamais osé porter plainte.
Et son conjoint a été placé en garde à vue dans la soirée. Les pêcheurs de thon rouge reprennent du service ce matin en Méditerranée. C'est l'ouverture de la pêche pour les gros bateaux. Des thons rouges plus nombreux qu'il y a quelques années. Grâce à la maîtrise de la surpêche, les stocks repartent lentement à la hausse. Alors pour les professionnels, l'enjeu désormais, c'est d'éviter les prises accidentelles d'autres espèces en danger. Célia Quiret, vous êtes au Gros du Roi. Peut-on parler désormais de pêche durable ?
Son petit bateau, le Enzo 2, est à quai juste sous le vieux phare du port. Julien Escoffier pêche au filet et à la ligne, loin des navires-usines de pêche industrielle.
C'est une mer remplie d'OTAN. Donc la mise en place des quotas et tout ce qui a été fait pour préserver cette espèce porte ses fruits. Il y a une grosse prise de conscience qu'il n'y avait pas il y a quelques années.
Son groupement de pêcheurs l'oblige à mettre une balise satellite à bord pour surveiller ses sorties. S'il pêche par erreur des requins à peau bleue, il doit les relâcher vivants et il doit éviter certaines zones de pêche sensibles, explique Bertrand Wendling, directeur général de la Satoan, coopérative des pêcheurs de Sète.
Malheureusement, quand on met un hameçon dans l'eau, on peut pêcher des thons, mais aussi d'autres espèces qui sont dites sensibles, notamment les raies et les requins, qui sont les espèces principalement pêchées en prise accessoire. Par exemple, on demande aux pêcheurs d'enregistrer sur une application smartphone qui s'appelle Ecosy les zones où il y a des captures de requins ou de raies importantes.
Et il existe des répulsifs pour faire fuir les raies ou les requins, mais les pêcheurs de thon rouge ne sont pas tous exemplaires. Pauline Constantin est la responsable de l'Institut marin du Sea Aquarium du Gros du Roi.
C'est évident qu'aujourd'hui, il faut qu'on change un peu les outils de pêche, qu'on les adapte, qu'on les améliore. Tous nos requins en Méditerranée sont en déclin. Les stocks s'effondrent littéralement.
Et pour cette scientifique, il faut changer le modèle économique des grosses pêcheries. Avec le changement climatique qui modifie aussi les stocks de poissons, les pêcheurs devront s'adapter pour sauver leur activité.
Et l'on en vient à notre rendez-vous quotidien avec le prix du livre inter.
Oui, pendant 2 semaines, nous vous présentons chaque matin les livres en compétition avant le verdict du jury début juin. Ce matin, celui de Nathalie Azoulay, dont ce n'est d'ailleurs pas la première nomination pour le livre inter. La fille parfaite, l'histoire d'une amitié entre deux jeunes femmes, brillantes mais très différentes. Petit avant-goût avec l'écrivaine elle-même.
Le livre s'ouvre sur le suicide d'Adèle, je ne déflore rien puisque c'est la première page du livre. Et à partir de ce suicide, Rachel, qui devient écrivain, va raconter cette histoire et va mener l'enquête pour essayer de savoir pourquoi son amie Adèle, qui avait tout pour être heureuse, a décidé de mettre fin à ses jours. Alors quand elles se rencontrent à 14 ans, elles ont toutes les deux décidé de conquérir le savoir et de montrer que les filles, ça peut être très intelligent. C'était une amitié exigeante, c'était une amitié intellectuelle, au travers de laquelle elles ont tout connu, hein. La passion, la fusion, la séparation, la rupture brutale, les retrouvailles permanentes. Si bien que pendant ces 30 ans d'amitié, en fait, ce que mon roman essaye de faire, c'est de suivre le cours, comme ça, très tumultueux, très sinueux, de cette passion amicale qui a changé leur vie.
Nathalie Azoulay au micro d'Eva Bétan, interview à retrouver en longueur sur franceinter.fr. À Cannes, le palmarès est attendu dimanche, avec en lice pour la Palme d'Or, le dernier long métrage d'une habituée de la croisette, Claire Denis. Cette fois, elle nous emmène au Nicaragua pour une histoire d'amour entre une Américaine et un Anglais. Ça s'appelle Stars at Noon, et Alexis Demeyer, vous avez beaucoup aimé.
Bloquée au Nicaragua, sans argent ni passeport, une jeune américaine est punie par la junte militaire pour avoir écrit un article sur la torture. Cette journaliste fantasque boit énormément de rhum et monnaie ses charmes auprès d'occidentaux de passage. C'est comme ça qu'elle rencontre Daniel. Débute alors une sulfureuse histoire d'amour, un parfum de scandale comme Cannes les aime tant, même si Claire Denis s'en défend.
On peut pas dire que ça tourne autour du sexe, ça tourne peut-être autour du désir, et peut-être que elle a besoin d'argent. L'alcool, elle boit un peu de rhum, mais enfin... Non, j'ai fait le mieux que j'ai pu, l'adaptation d'un livre que j'adore.
Mais si l'action du roman de Dennis Johnson se situe en 84, Claire Denis la transpose de nos jours, en pleine pandémie. Dans le rôle principal, Margaret Qualley, vue chez Tarantino et dans The Leftovers, crève l'écran. Claire Denis lui rend d'ailleurs un hommage appuyé.
Moi, je pense qu'elle est une prétendante sérieuse pour être la plus grande géniale actrice. Je pense même pas au prix d'interprétation, je pense qu'elle est follement douée, quoi. Parce qu'elle se sert même pas de sa beauté.
Stars at Noon est un film tropical qui commence lentement dans la moiteur d'une prison à ciel ouvert, mais on se retrouve vite dans un efficace film d'espionnage et les cadavres s'amoncellent dans le sillage de ce beau couple de cinéma.
Alexis Demeyer. Et puis deux institutions du foot français face à face ce soir en barrage Ligue 1, Ligue 2. D'un côté, l'AJ Auxerre qui a l'occasion de remonter dans l'élite 10 ans après. De l'autre, Saint-Étienne qui va tout faire pour ne pas descendre. Coup d'envoi à 19h.
Pas de préférence pour vous.
Oulala, je ne prononce surtout pas.
Ne vous faites
envie de recevoir des mails.
Ne vous faites pas d'ennemis. Merci à vous, Alexis Morel, pour ce journal. La météo de Marie-Pierre Planchon arrive.
La météo avec Air France. Cet été, envolez-vous en toute sérénité vers plus de 1000 destinations. S'envoler en toute élégance. Air France. Rendez-vous sur airfrance.fr.
Marie-Pierre, un ciel bien nuageux ce matin sur les deux tiers du pays.
Et oui, Jérôme, malgré quand même la poussée anticyclonique, une perturbation a réussi à rentrer, mais le temps reste sec sous ces nuages qu'on va retrouver sur la moitié nord, en descendant même jusqu'au sud-ouest et sur les Pyrénées, à l'ouest du Massif central, en remontant sur la Bourgogne jusqu'à l'Alsace, et puis à l'est d'une ligne qui relierait Colmar à Foix dans l'Ariège. Vous avez pu voir le soleil se lever jusqu'à la Méditerranée sous un bon vent, et un mercure qui remonte un peu ce matin sur le nord, mais qui reste contrasté entre les 5 relevés à Épinac en Saône-et-Loire et les 6 dans la Creuse, alors qu'on relève 20 à Antibes et Ajaccio. Vous avez 14 à Paris, Lille et Bordeaux.
Et un temps mitigé cet après-midi.
Oui, on aura quelques éclaircies, mais alors vraiment timides, hein, du nord à l'Alsace, à la région parisienne, au Massif central, mais le ciel va rester gris de la Bretagne à la Picardie, en descendant vers l'Aquitaine, et puis sur la moitié est, le temps sera ensoleillé, avec quand même une reprise des averses et des orages des Alpes du Sud à la Côte d'Azur, même jusqu'à Marseille, ainsi que sur le relief Corse. On va retrouver des normales de saison, 16 à la pointe du Cotentin, 18 à Rouen, comptez 20 à Dunkerque comme à Toulouse, 21 à Nantes et Aurillac, il fera 22 à Paris, 24 à Auxerre et Chamonix ou Nice, comptez 28 à Saint-Mamère-du-Gard, 29 à Avignon et même 31 sur la Canebière.
Merci Marie-Pierre, à tout à l'heure. 8h18 géopolitique.